Coucou, la communauté des French Learners. Je continue la série Pause Café et aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale. Et si vous voulez écouter cet entretien en podcast, allez sur mon site alissayel.com. Si vous êtes débutant ou si vous voulez revoir et acquérir les bases du français, allez sur mon site parce qu'il y a des vidéos exclusives pour acquérir le français naturellement.
Alissayel.com pour acquérir le français naturellement.
Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Elisa.
Bonjour Alice.
Bonjour Elisa, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet entretien.
Merci.
En fait, Elisa, je t'ai rencontrée grâce à Hélène Collinet. Il y a d'ailleurs un entretien avec Hélène Collinet dans cette série Pause Café que vous pouvez regarder ou écouter en podcast. Alors Elisa, est-ce que tu peux te présenter? D'où est-ce que tu viens? Et qu'est-ce que tu fais?
D'accord. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Elisa. Je suis originaire du sud de l'Espagne. Donc, je suis espagnole. J'habite dans le sud de Cordoue, donc dans un grand village ou une petite ville appelée Cabra, chèvre en français. Et donc, je suis prof, je suis enseignante de français depuis 12 ans à peu près. Et moi aussi, je t'ai rencontrée à travers Hélène Collinet, qui est le lien de tous les profs en Espagne.
Oui, Hélène fait un travail formidable pour convertir les professeurs en Espagne, les professeurs de langue, à l'approche de l'input compréhensible, n'est-ce pas, Elisa?
Tout à fait, tout à fait. Et en plus, quand on en parle souvent, je lui ai déjà dit plusieurs fois, à plusieurs occasions, que pour elle, pour moi, elle, c'est comme le dieu d'une religion. Donc, c'est le référent que j'ai à tout moment. Et chez moi, quand je parle d'elle, ma fille connaît Hélène, mon mari connaît, c'est comme si je parlais de quelqu'un de ma famille. Donc, ce n'est pas exagéré, c'est parce que la découvrir et découvrir qu'il y a un monde appelé le monde de l'acquisition, de l'input compréhensible, tout, pour moi, à mon âge, ça a été une découverte qui m'a changé un peu la vie quand même. Donc, ça a été très important de la découvrir, de pouvoir voir qu'il y a un monde différent dans le domaine de l'éducation qui ne doit pas forcément être celui de l'apprentissage, sinon l'acquisition. Et pour moi, ça a été énorme. Ça a été très, très, très bien.
Donc, tu es professeur de langue, tu es professeur de français, Lisa?
Oui, je suis prof de français. De temps en temps, j'ai aussi fait l'espagnol, mais normalement, je ne fais que le français au lycée.
Donc, tu enseignes au lycée, c'est-à-dire, tu parles lycée espagnol ou tu parles lycée français, c'est-à-dire seconde en français, la seconde, la première, la terminale, ce sont les 3 années, les 3 dernières années avant d'aller à l'université. C'est
Oui.
ça, Elisa?
Moi, c'est un mélange entre le collège et le lycée parce que j'ai également des élèves qui sont en cinquième, quatrième, troisième. Et cette année, je pense que je vais aussi avoir des élèves étudiants la seconde. Et puis, toutes les années, je fais cours avec des élèves qui sont en première et aussi bien en terminale. Donc, normalement, j'ai entre 4 et 5 niveaux. Et on va dire que par équivalent, ils sont entre des collégiens et des lycéens suivant le modèle d'éducation à la française.
Et tu enseignes combien d'heures, enfin, les élèves plutôt, les élèves ont combien d'heures de français par semaine en général, en
Donc,
moyenne?
les élèves faisant le premier cycle de l'éducation secondaire obligatoire, c'est-à-dire la cinquième, quatrième et troisième, ce sont des élèves qui ont 2 heures de français par semaine. Après, les élèves qui choisissent le français quand ils sont en seconde ont normalement 3 heures de cours par semaine. Donc déjà, il y a un lien, une augmentation d'une heure qui fait que les élèves gagnent beaucoup plus de niveau en moins de temps. Et les élèves qui sont en première ont normalement 2 heures de cours et ceux qui sont en terminale font 4 heures de cours
Ah,
par
d'accord.
semaine. Donc, ça fait que du coup, le nombre d'heures de ce qu'on appelle le batch planning ou le temps de préparation des cours, dans mon cas, soit très très vaste parce que j'ai beaucoup de niveaux et chaque niveau a un nombre d'heures différent par rapport à l'autre.
Oui, tu es très occupé en tant que professeur de français.
Ouais, normalement, oui.
Mais donc, est-ce que tu peux nous expliquer, Elisa, d'abord, comment est-ce que tu as, toi, acquis le français? Parce que tu parles très bien français.
Ah, merci.
Alors, je voudrais savoir ton secret. On voudrait connaître ton secret, Elisa. Comment est-ce que tu as fait?
Mon secret, c'est que je l'ai acquis et je l'ai appris en différentes phases.
D'accord.
C'est-à-dire, au début, même si ça c'est un peu bizarre, je l'ai acquis au lycée. Et c'est bizarre parce que normalement, en Espagne, aussi bien en France et dans les autres pays de l'Europe, la méthode pour apprendre les langues est toujours à peu près la même.
Oui.
Et du coup, quand j'étais au lycée, il y a déjà très, très, très longtemps, ma prof de français, ça, je l'ai réfléchi avec le temps, elle m'a fait acquérir le français. Et pourquoi je sais, je suis convaincue que je l'ai acquis, eh bien, je pense que parce qu'une fois que je commençais à étudier à la fac, la philologie française, il y avait des points de grammaire qu'on m'expliquait et que je me disais, bon, d'accord, je connais ça, mais je n'ai jamais étudié la règle de la formation. C'est-à-dire que j'employais des éléments de la grammaire sans savoir pourquoi j'en faisais usage. Donc, ça m'a fait penser, quand je me suis introduite dans le monde de l'acquisition, que la première fois que j'ai acquis ou que je commençais à acquérir le français a été durant l'époque de l'adolescence, grâce à ma prof, qui m'a donné l'envie de vouloir étudier, parce que ce qui est anecdotique, c'est que moi, je ne voulais pas étudier. Je n'étais pas une très bonne étudiante. J'étais bonne, j'étais douée dans le domaine linguistique, les langues étrangères. J'aimais beaucoup étudier les matières comme l'histoire de l'art, la philosophie et tout. Mais j'étais convaincue que si j'allais à l'université, ce serait pour aller étudier que le français. Et ça a été grâce à ma prof, hein. Elle est déjà partie à la retraite et on se voit parce qu'on habite tous les deux à Cabra. Et quand on se voit dans la rue, elle est toujours en train d'écouter des podcasts ou d'écouter la radio française. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas perdu l'envie d'être en contact avec la langue, même si c'est quelqu'un qui a déjà un certain âge, même si c'est quelqu'un qui est déjà à la retraite depuis un très bon tas d'années. Et donc, la première prise de contact avec l'acquisition a été pendant le lycée. Et après, je pense, en faisant un peu la réflexion de tout ce qui est acquisition et apprentissage, que le français, je l'ai acquis à l'université, pas parce que l'input c'était compréhensible ou riche ou intéressant, mais parce que quand j'étais dans les cours et que j'écrivais et que je prenais mes notes, après à la maison, je faisais un travail de lecture, de faire des résumés, ce qui faisait que du coup, mon cerveau commence à absorber des mots et des structures et le vocabulaire a commencé à grandir et le capital linguistique, on va dire, n'a pas cessé de s'accroître. Mais je pense que si je dois dire deux moments clés, le premier a été au lycée et le second, le deuxième, a été l'année où j'ai été en France. Parce que je suis partie en Erasmus à Angers, qui est une ville située, placée à presque à peu près à 300 km de Paris. Et donc, je me souviens que quand je suis arrivée en France, loin de bien connaître la langue française, quand je commençais à faire tout ce qui était administratif, des papiers dans le domaine de la santé, des papiers dans le domaine, par exemple, des banques, quand je commençais à faire tout ce qui était administratif à la fac, à l'université, alors là, j'ai réalisé que je ne comprenais pas très, très bien cette langue que je pensais que je croyais bien comprendre quand j'étais à l'université. Bien que mes profs, ils étaient des natifs, hein, la plupart des profs à la fac n'étaient pas des Espagnols. Mais bon, le contexte était quand même très, très différent du contexte pédagogique dans lequel j'avais acquis un capital linguistique. Et donc, du coup, je me souviens que quand 2 mois sont passés après mon arrivée là-bas, ma tête était habituée à la langue française et je n'avais plus besoin d'aller avec mon gros dictionnaire dans la rue parce que au début, je cherchais tous les mots dans le dictionnaire. C'était l'habitude, c'était à quoi j'étais habituée à la fac. Et je me souviens qu'au bout d'un moment, le dictionnaire, qui était un vaste dictionnaire de français, je l'ai laissé de côté. Et mon oreille était capable de comprendre à peu près le 100% des mots qui étaient dits dans les différents discours et situations de communication dans lesquelles les personnes qui allaient avec moi et moi, nous étions, que ce soit dans la rue, avec d'autres étudiants Erasmus, à l'université, dans un supermarché. Et donc, je pense que c'est là le moment clé où l'acquisition a mieux, pour le dire d'une façon, mieux fonctionné, je pense.
Oui, parce que tu étais sans cesse en train d'écouter du français.
Bien
Tu étais
sûr.
entouré de la langue française, oui. Et à cette époque, il n'y avait pas le téléphone portable pour regarder les mots, donc tu avais ton gros dictionnaire.
Oui, c'était en 2005 quand je suis partie en France et je pense que j'avais un téléphone portable qui n'avait même pas d'Internet.
Oui,
Donc, à
c'était
l'époque,
des téléphones très basiques juste pour appeler, mais ce n'était pas encore ce qu'on appelle des téléphones intelligents, des
non,
smartphones.
pas du tout. Mais bon, en tout cas. Là, j'ai l'exemple de ma propre expérience où il n'a pas fallu les traducteurs de Google, où il n'y a pas fallu rien
Oui.
d'autre que d'écouter, de lire, de vérifier les mots avec le dictionnaire ou de demander aux personnes qui étaient des natifs. Comment on pouvait dire tel ou tel mot, ou quelle était la signification d'un mot que je ne connaissais pas. C'est comme ça que ton cerveau absorbe et absorbe et que tu commences à avoir beaucoup plus de vocabulaire en relation au vocabulaire de l'université.
Oui, bien sûr. Et c'était la première fois que tu allais en France, Elisa, quand tu es allée à Angers?
Ah non, c'était pas la première fois, c'était la troisième fois parce que avant, j'étais partie comme fille au pair.
Ah,
Oui. Et
d'accord.
à ce moment-là, ça n'a pas été le moment de l'acquisition parce que, bon, j'étais beaucoup plus jeune et j'étais avec une famille qui n'était pas pour expliquer beaucoup les choses, qui n'était pas très en faveur de parler lentement. Et donc, ça n'a pas été une expérience très positive pour moi. Mais ce n'était pas en tout cas le premier contact que je faisais avec la France. Et, parce que quand j'étais partie comme fille au pair, c'était dans le sud de la France, dans un petit village qui était près de la frontière. Et l'expérience était tout à fait différente, au milieu de la campagne, avec une famille, des enfants. Et donc, le vocabulaire et les expressions avec les gamins, c'est toujours très différent au vocabulaire dont je m'en servais quand j'étais à la fac et avec d'autres apprenants comme moi qui venaient d'autres pays. Les thèmes de discussion, c'était très différent que les thèmes que j'avais avec la famille et tout.
Les gamins, tu dis les gamins, c'est une autre un autre mot pour les enfants, oui.
Oui, les enfants.
Et donc, ce n'était pas une expérience très positive pour toi, mais pourtant, Elisa, tu n'as pas laissé tomber.
Non.
Tu as continué quand même de vouloir apprendre le français. Je suis
Oui.
impressionnée parce que parfois, quand on a des expériences négatives avec un pays ou avec une langue, après, on n'a plus très envie de vouloir apprendre la langue, parfois.
Mais c'était la première année de fac et je ne voulais pas arrêter d'étudier parce que peut-être je suis un peu bizarre, mais au contraire de beaucoup d'étudiants, j'adorais aller à la fac, j'adorais étudier le français et j'adorais la civilisation française. J'adorais la littérature, j'adorais la phonétique, j'étais un peu une freaky, comment dire, je ne sais pas. Et ce n'est pas pour ça que j'ai arrêté, non, parce que mon avenir, c'était, quand je pensais à mon avenir, je ne voyais pas mon avenir dans une autre voie différente à celle que j'ai choisie. Et donc, ça a été une expérience de à peu près un mois et je savais, j'étais consciente que pour améliorer et pour faire des progrès, je devais partir minimum un an pour savoir me débrouiller dans tous les contextes et dans plusieurs registres de langue. Et parce qu'après, pour passer le concours, il ne suffit pas de connaître le standard, il faut connaître tout, la langue formelle, il faut. Enfin. Et après la fac, je n'ai cessé, j'ai toujours eu un contact étroit avec la France parce que on a toujours, depuis que j'ai commencé à travailler, on a toujours fait des échanges et on a toujours voyagé, que ce soit dans le sud ou dans le nord de la France. Et du coup, cela fait qu'il y ait un lien entre un enseignant ou une enseignante originaire de France et moi. Et
Ah
ça
oui.
fait que le contact avec la langue soit toujours un changement. S'il y a des mots nouveaux, ça me permet de les connaître. Ça me permet aussi de voir comment les jeunes d'aujourd'hui parlent, s'il y a dans tous les registres des expressions à connaître ou des mots que j'ai oubliés ou qui sont dans mon cerveau ça me permet aussi de réviser. Et donc,
Ouais.
je pense que c'est un indispensable, si tu es prof de langue, d'avoir un lien avec un pays francophone, si ce n'est pas la France, mais peu importe si c'est un autre pays, où la langue véhiculaire ou la langue de communication soit le français.
Oui, tu as raison. Donc tu fais un échange, vous faites un échange avec une école en France, c'est ça?
Oui.
Et elle est où cette école en France?
Cette année, on a fait un échange virtuel, bien
Oui.
sûr, avec un collège qui est placé à Menucourt. Je ne sais pas si tu connais,
Non.
c'est un petit village qui est près de Paris. Et ça nous a permis aussi de connaître un peu plus la région parisienne. C'est dans le nord de Paris. Et on a établi un contrat avec cette école il y a 3 ans. C'est un collège, ce n'est pas une école primaire. Et pour l'année prochaine, j'ai changé de lycée. Je vais dans un autre lycée parce que je travaillais pendant 9 ans dans un village près de chez moi.
Oui.
Et là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'approcher un peu plus de ma ville. Et là-bas, il y a un échange avec un village du sud de la France. Et l'idée, c'est de garder les deux villes, le nord et le sud, pour pouvoir faire aussi bien l'échange, mais aussi un voyage culturel. Donc,
Très bien.
ça, c'est l'idée de mon collègue et moi.
Ah, très bien, très bien. Et donc c'est comme ça que tu as, toi, acquis le français. Elisa, après, donc, tu dis que tu es allée à la fac. Encore une fois, c'est un raccourci. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est un raccourci pour la faculté. On dit à la fac, oui. La faculté, l'université. Et tu as passé donc le concours des oppositions en Espagne. C'est le concours pour devenir professeur, n'est-ce pas? On en a parlé dans une vidéo précédente avec Ana Cadena, qui est aussi
Oui,
espagnole et que tu connais, Elisa, n'est-ce
oui, oui, oui. Mais j'ai passé le concours il y a déjà 11 ans et je suis fonctionnaire de l'État depuis 2010. Donc,
D'accord. Et donc, quand tu as commencé à être professeur dans un collège, dans un lycée, quelle méthode tu utilisais pour enseigner le français?
Je pense que j'ai utilisé la méthode traditionnelle, comme le font la plupart des profs. Et au début, je me suis trop centrée sur l'apprentissage formel de la langue. Et je me souviens de mes premières années de prof. C'était des années très, très lourdes, je pense, pour mes élèves. Parce que j'aimais expliquer la grammaire, j'aimais expliquer les temps verbaux, j'aimais expliquer même la phonétique. Et je pense que mes élèves ont dû souffrir beaucoup pendant ces premières années. Et je peux dire que, en gros, la méthode était traditionnelle. Bien que j'ai toujours dit que j'ai toujours aussi mis l'accent sur le fait de parler, mais ça a été une expression forcée. C'est quand tu apprends, quand tu découvres le monde de l'acquisition et que tu réfléchis à tout ce que tu as fait auparavant. Dans mon cas, je me suis aperçue que justement tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que moi j'ai fait. Mais ça ne me fait pas honte de le dire parce
Oui.
que à la fac, on apprend différents domaines de la langue, aussi bien la sémantique, la linguistique, la phonétique, la littérature, comme si c'était des domaines coupés de la langue. Et c'était, pour moi, c'était fascinant parce que j'aimais beaucoup de domaines de la langue, mais aucun prof, aucune personne n'est venue nous dire comment est-ce qu'il fallait enseigner la langue étrangère. Même pas quand j'étais dans l'académie qui nous prépare au concours, je n'ai pas le souvenir ou j'ai une mauvaise mémoire, mais je ne me souviens pas d'avoir étudié comment est-ce qu'il faut enseigner les langues.
La donc, pédagogie, tu veux dire.
Voilà, la pédagogie, je pense que je l'ai fait suivant les modèles que j'ai vus aussi bien au lycée. C'est pour ça que je mettais l'accent sur l'expression orale, parce que ma prof de français, elle nous insistait à parler beaucoup. Mais dans ma tête, je pense que la plupart des profs, nous avons l'idée, erronée ou pas, que la grammaire doit être à la base de tout apprentissage. Et donc, mes unités didactiques, mes thèmes, c'était centré sur l'apprentissage formel, même s'il y avait l'expression orale et tout. Mais je faisais à la façon la plus puriste, on va dire, avec des listes de vocabulaire, avec des explications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons étudier l'impératif et je mettais la théorie sur au tableau. Et les élèves copiaient, faisaient des activités. Donc, c'était la méthode traditionnelle, quoi, je pense.
Et donc, comment est-ce que tu as réalisé ou tu t'es rendu compte que tu devais changer ta façon d'enseigner?
Moi, je pense que le confinement a été le moment clé parce que nous, on était, enfin, je pense que tous les profs, aussi bien ici en Espagne qu'ailleurs, on était en travaillant au lycée et du jour au lendemain, on nous a dit « bon, vous devez travailler à la maison ». Et donc, je me souviens de discuter avec certains collègues « bon, comment est-ce que tu fais ? Est-ce que tu fais des vidéoconférences ? Est-ce que tu envoies des devoirs ?» Et je me suis aperçue, j'ai réalisé que la majorité des profs, comme on ne savait pas faire d'une autre manière, on faisait un rendez-vous une fois par semaine à travers la vidéoconférence et le reste du temps, on envoyait des devoirs à la maison. Et moi, d'une façon un peu avec mon téléphone portable, j'ai commencé à filmer des vidéos pour mes élèves, mais parce que pour moi, c'était très, très froid de ne plus avoir le contact avec eux. Et je ne voulais pas parler avec eux à travers le courriel électronique. Et donc, j'envoyais au moins une vidéo d'humour par semaine. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir l'inquiétude de voir comment il y avait d'autres profs des langues et comment les autres profs de langue faisaient. Et c'est là que je commençais à chercher et à voir des vidéos. C'est là que je t'ai découvert sur YouTube. Et une chose m'a amené à une autre. Et oui, c'est là que j'ai découvert aussi sur Instagram Hélène. Et on va dire que c'est grâce au confinement que je me suis posé pas mal de questions par rapport à la méthode. Et c'est pendant le mois de juin de l'année dernière que j'ai commencé à étudier, à faire les formations avec Hélène. Et en parallèle, j'ai créé la chaîne YouTube pour que mes apprenants puissent voir des vidéos un peu folles au début parce que c'était un peu pour faire des blagues, faire de l'humour. Et c'était drôle parce que je leur envoyais une vidéo et où j'ai même fait du rap. Et eux, ils me retournaient une vidéo de eux-mêmes à la maison en faisant la même chose. C'est-à-dire que bien. Si je chantais, ils chantaient aussi. Si j'expliquais comment j'étais habillée ce jour-là, ils m'envoyaient une vidéo où ils m'expliquaient ce qu'ils avaient dans le garde-robe et tout. Et ça a fonctionné au moins pour qu'ils puissent pratiquer sans pas forcément avoir la mémorisation dans leur tête, d'un discours oral.
Très bien, d'accord. Je ne savais pas que c'était le confinement qui avait fait que tu t'étais remise en question, en fait, en quelque sorte. C'est très intéressant.
Oui, parce que le confinement, tout le monde a le souvenir d'un cauchemar, y compris moi. Moi aussi, je pense que ça a été terrible.
Oui.
Mais j'essaie dans ma vie, j'essaie de chaque situation négative, j'essaie d'avoir au moins une idée positive. Et donc, du coup, quand je me suis remise en cause et que je me suis posé pas mal de questions concernant ma pratique pédagogique, pour moi, c'était très positif de découvrir qu'il y avait une communauté de personnes qui avaient déjà fait des études et qui avaient déjà découvert ce que peut-être j'étais en train de chercher et de trouver depuis très longtemps, et que je ne savais pas que cela avait un nom et que derrière il y avait des personnes comme Benny Comesson et Steve Krashen ou d'autres personnes qui sont très importantes dans le monde de la linguistique. Et pour moi, ça a été une dose d'énergie pour dire, bon, je suis à la maison, mais tout n'est pas négatif. J'ai l'occasion de pouvoir changer, de pouvoir améliorer. Et donc, je n'ai pas hésité une minute, même si je n'avais pas trop le temps, parce que, à part être prof, je suis aussi maman d'une petite fille. Et donc, je ne savais pas si j'allais avoir le temps de pouvoir étudier, travailler, concilier et tout. Mais pour moi, ça a été un effort qui a valu la peine. C'est ça,
oui, 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 ça valait la peine de faire ça, oui, oui. Et d'ailleurs, je t'ai découverte aussi grâce à tes vidéos sur YouTube. Tu as une chaîne YouTube, je vais la mettre dans la description de la vidéo, parce que tu fais des vidéos très intéressantes, Elisa. Tu parles aussi de... Par exemple, je me souviens d'une vidéo que tu as faite sur Yves Saint-Laurent, sur la haute couture et sur Yves Saint-Laurent. Tu fais aussi des vidéos pour expliquer la grammaire, mais pas au travers d'une histoire, n'est-ce pas?
Oui, au début, j'ai eu des idées à propos des vidéos. Et ce sont des vidéos que je ne filme plus parce que quand j'ai bien compris ce que c'était l'input compréhensible, l'acquisition et tout, je me suis fait la critique à moi-même. Je me suis dit que ce n'était pas des vidéos forcément compréhensibles. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que quand je dois expliquer un peu de grammaire dans la classe, j'utilise ces contenus pour comparer ou pour expliquer avec des images aux apprenants pour qu'ils retiennent mieux la théorie. Mais c'était des vidéos où les éléments de la grammaire, c'était des personnes habitant dans un quartier et tout. Mais dans la pratique de mes cours présentiels, je voyais que les apprenants ne comprenaient pas très bien. Et donc, ce sont des vidéos que j'ai arrêtées parce que je devais d'abord faire le brouillon. Après, je devais écrire le template.
Oui, l'histoire, enfin
L'histoire,
le script
oui.
de, oui, tu devais
Voilà.
penser, imaginer un script.
Et je me suis un peu, je me suis penchée plutôt sur les histoires basées sur la fréquence des mots et essayant de chercher les mots et ces structures qui puissent servir aux apprenants pour l'acquisition. Et ce sont des vidéos que j'ai faites parce que cette année, je travaillais avec un mélange de dossiers d'activités que j'ai créées et que j'ai mises sur mon site web. Mais j'ai aussi utilisé le livre de texte pour m'orienter dans les thèmes. Et donc, par exemple, quand je fais la vidéo de Yves Saint Laurent, ça a été parce qu'on était en train d'étudier les vêtements et je ne voulais pas faire l'étude des vêtements à la façon traditionnelle. Donc, c'était l'occasion d'utiliser des mots, de vocabulaire. Et une fois que les élèves regardaient dans la classe, on pouvait aussi connecter très vite avec des stratégies comme le PQA, le cercle, le triangle. De cette façon, on pouvait utiliser et réutiliser le vocabulaire dans une situation de communication réelle, sans forcément avoir une liste de mots. Et c'est comme ça que j'ai fait l'année dernière. Maintenant, je ne fais pas de vidéo parce que cet été, j'ai décidé de me reposer.
Oui,
Et
bien sûr.
on a eu aussi un problème dans ma famille parce que ma grand-mère maternelle, elle est décédée. Et donc, on a passé presque 20 jours très préoccupés. Et je n'ai pas eu l'envie de penser au script ni au cours. Et du coup, j'ai déconnecté et je suis dans. Maintenant, je pense un peu. Je suis en train de revoir les formations avec Hélène. Je suis en train de me documenter, on dit ça.
Oui.
De lire un peu des articles, de lire des livres de Stephen Krashen. Et je suis en train de réviser.
Très
Mais
bien.
je ne pense plus au script, je me laisse un peu aller et quand le mois de septembre arrivera, je m'y mettrai pour penser à des vidéos ou à des podcasts, je ne sais pas.
Mais c'est bien, Elisa. On dit en français toutes mes condoléances pour ta grand-mère. Et c'est normal aussi, c'est bien aussi de faire une pause, de se ressourcer. Parce que c'est vrai que faire des vidéos sur YouTube, parfois, ça peut pomper beaucoup d'énergie et de temps. Et aussi de créativité, et on a besoin de faire une pause pour se ressourcer. D'ailleurs, j'en profite pour dire que cette vidéo est la dernière de la série pour le moment. Je vais d'ailleurs, j'en profite pour dire que je vais faire une pause moi aussi, et je reviendrai au mois de septembre. C'est la vidéo numéro 20 de la série, Elisa. Tu es la 20e de la série de toutes ces personnalités. Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu te remets en cause en fait constamment, même avec les vidéos, tu te remets en cause. Tu as remarqué que pour tes élèves, ce n'était pas forcément compréhensible de raconter des histoires avec des personnages de grammaire, donc tu t'es remise en cause encore une fois, et c'est vrai que. Les élèves, en fait, ils ont besoin d'inputs compréhensibles, mais ils ont aussi besoin d'inputs qui les intéressent, je pense. Et par exemple, l'histoire d'Yves Saint-Laurent, c'est une histoire intéressante. On peut se connecter à cette histoire, on peut se référer à cette histoire, parce que c'est une histoire vraie, parce que, et comme tu dis, le PQA, c'est les questions personnelles. Après, on peut poser des questions à partir de cette histoire sur qu'est-ce que tu aimes comme vêtements, est-ce que tu aimes la haute couture, et on peut avoir une vraie conversation, une conversation authentique, pas une conversation forcée.
Oui, j'ai aussi décidé de ne pas trop faire des vidéos à la maison parce que je n'avais pas trop le temps. Et à la fin de l'année scolaire, ce que j'ai décidé, c'est de faire les vidéos en direct dans mes cours. Et par exemple, j'ai aussi expliqué la vie de Frida Kahlo dans un groupe de première. Et c'est vrai qu'après, je pose des questions aux élèves sur la façon d'expliquer l'histoire et tout. Et quand ils m'ont dit que de cette manière, ils ont appris beaucoup plus que si on faisait un thème du livre, c'est ça ce qui m'a donné l'envie de perfectionner les choses, mais pas de le faire forcément à la maison, parce que ça te double le travail. Et je ne suis pas une youtubeur. Et donc, je voulais continuer à étudier. Je voulais aussi faire une formation sur la mindfulness et le monde de la méditation.
Oui.
Et si je voulais faire ça, je devais dire non à d'autres choses. C'est pour ça que je me suis dit, bon, je peux améliorer la méthode de le story listening ou le storytelling dans la classe. Et après, si j'ai l'envie, si je le veux, je répète la vidéo à la maison et comme ça, je peux arriver à plus de gens. Mais ça m'a enlevé beaucoup de stress quand j'ai effacé de ma tête l'idée de filmer toutes les semaines des vidéos parce que c'était une pression, c'était une obligation. Et je ne veux plus que les choses que je fasse soient une obligation. Si je le fais, que ce soit parce que j'ai l'envie, pas parce que je me sens obligée.
Très bien, oui. Je pense que ça va beaucoup intéresser ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent. Mettez dans les commentaires si vous vous apprenez le français parce que vous avez envie de le faire ou parce que vous êtes obligé de le faire. Et je pense que il est très important de vouloir, d'avoir envie, pas d'être obligé, n'est-ce pas? Parce que si on est obligé ou juste obligé, on peut avoir une petite obligation, bien sûr, pour le travail ou aussi pour l'école, mais il faut aussi avoir l'envie. Parce que sinon, on n'y arrive pas.
Oui, avec les élèves, moi, par exemple, quand je fais l'analyse à plusieurs moments de l'année à propos de la nouvelle approche, de la nouvelle méthode, mes élèves m'ont rempli un questionnaire. Et il est vrai que la plupart d'entre eux étaient plus contents que les années précédentes. Parce qu'ils voyaient que c'était plus fluide. Mais il y avait des élèves qui ne me connaissaient pas des années précédentes parce que dans le lycée où j'ai travaillé, il y avait des élèves originaires d'autres villages. Et ceux qui étaient la première fois qui étaient en contact avec moi, il y a eu aussi des élèves qui n'ont pas eu la motivation pendant toute l'année, même si on a chanté, même si on a fait les pick away, même si on a parlé des thèmes d'actualité ou même si j'ai mis des images qui choquent. Il y a eu des élèves qui se sont très vite déconnectés quand j'ai commencé à faire des dessins au tableau parce que ils trouvaient que de cette manière, c'était très, très lourd. Et je fais cette réflexion en ce moment parce que les familles pensent, nous les profs, on a peur des familles, de ce que les familles peuvent penser, mais il faut expliquer aux familles, il faut expliquer aux apprenants qu'il y a une partie du travail, il y a une partie de responsabilité qui ne nous correspond pas à nous les profs. Nous, on investit toutes nos énergies et on finit bien fatigué après les cours en utilisant cette méthode. Mais eux, ils doivent être présents dans la classe, ils doivent écouter. Et s'ils n'écoutent pas, l'acquisition ne va pas être possible. Donc, s'ils se sentent obligés, ça va être difficile de bien pouvoir arriver à tout le monde,
bien
je
sûr.
pense.
Bien sûr. Et c'est vrai que de toute façon, il est difficile d'enseigner. Et ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des jours meilleurs que d'autres. Il y a des classes avec qui on a de meilleures connexions. On se sent mieux avec une classe qu'avec une autre. Enfin, bien sûr, parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes tous différents et uniques. Nous avons des expériences différentes. Donc, il est normal que on ne puisse pas atteindre la perfection. Ce n'est pas possible.
Non, la conclusion, ça a été que ça a valu la peine de faire l'effort de changer la méthodologie, parce que tu arrives à plus d'élèves.
Oui.
Mais ça ne veut pas dire que tous les élèves sont accrochés au français.
Oui, bien sûr.
Il y en a certains qui ont adoré, il y en a d'autres qui n'ont pas aimé. Donc, ça dépend, mais il est vrai aussi que les élèves, depuis petits, je le vois avec ma fille, ils sont adoctrinés, on dit ça,
oui,
à être assis ou assises avec un livre et un cahier. Et changer cette habitude de leur tête est difficile parce que dès que tu fais un changement, ils mettent une étiquette au prof. Et moi, ça m'est arrivé cette année. Ils m'ont dit que j'étais bizarre. Ils m'ont dit que j'étais extravagante. Ils ont cru que j'étais un peu folle même, parce qu'ils sont habitués à, bon, aujourd'hui, on va étudier la leçon numéro 3 à la page 32. Et après, on va faire des activités. Mais pas qu'en français, c'est la méthode utilisée, employée dans toutes les matières. Donc, je comprends, je me mets à leur place et je comprends qu'ils puissent penser que je ne suis pas bien dans ma tête ou que je suis bizarre. Je comprends parfaitement.
Oui, tu as tout à fait raison et j'aime beaucoup ton honnêteté et ta sincérité sur le fait que pas tous les élèves. Tous les élèves n'ont pas accroché à ta méthode ou à ton approche et que tu as eu aussi des échecs. Et je pense que c'est normal. Hein. Beaucoup, même moi, tout le monde subit des échecs. Ça ne marche pas avec tout le monde.
Oui, mais ce n'est pas négatif s'il y a un échec ou s'il y a une situation négative dans ta vie. Je pense qu'il est bien il est moment de faire une réflexion et de garder ce qui est positif,
oui,
même si c'est négatif, et de effacer ce qui est négatif. Ce n'est pas parce que tu te remets en cause que c'est négatif. Il y a des choses qui ont été bien, donc je les garde. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Ce n'est pas grave. Je ne me sens pas mal. Je n'ai pas honte. Je me suis dit beaucoup de fois que ça fait déjà 12 années que je travaille et que c'est la première fois que j'ai changé de méthode et c'est normal qu'il y ait des erreurs, des choses à améliorer et des choses qui sont bien, donc je les garde. Et même s'il y a des situations ou des commentaires qui ont été négatifs, je fais même la critique de ces commentaires. Je me suis dit, bon, il y a des choses dans lesquelles les élèves ont raison et cela me sert pour être une meilleure version de moi-même pour les années qui arrivent. Et c'est tout. Je le prends pas mal. Pas du tout.
Très bien, oui. Très bien. C'est parfait, Elisa. Je pense que ce que tu dis peut servir aussi à ceux qui nous écoutent et qui sont en train d'acquérir le français. C'est la même chose. Quand on est en train d'acquérir une langue, il y a des hauts, il y a des bas, on garde le positif et on continue d'avancer. Et
bien
surtout,
sûr,
si on croit à une méthode, à une approche, on sait que c'est la bonne option.
Bien sûr.
Je pense que oui, il faut continuer d'avancer et bien sûr qu'il va y avoir des bas, des échecs, mais on continue.
Oui, il ne faut pas se rendre, c'est ça? Il ne faut
Oui, il
pas
ne
se...
faut pas se rendre. Il ne faut pas abandonner, laisser
Abandonner.
tomber. Exactement. C'est vraiment très intéressant et fascinant, Elisa. Merci encore pour ton honnêteté et ta sincérité hein, en tant que professeur. Je
Merci.
pense que les professeurs qui nous regardent vont être motivés. Je sais qu'il y a des professeurs aux États-Unis qui commencent l'année, là, maintenant. C'est la rentrée pour eux.
Oui.
Pas encore pour nous en Europe. Hein. En Europe, le mois d'août est un mois de vacances en général. Mais je pense que ça va les motiver pour cette nouvelle année qui s'annonce encore assez difficile, je pense. Donc,
Oui. Oui, cette année, ça va être dur. Malheureusement, on a toujours la COVID parmi nous. Et
Oui.
je pense que ça va être à peu près pareil à l'année dernière. Donc, il faut bien se reposer dans les jours qui nous restent pour reprendre la force
Oui.
pour ce qui va arriver dans les mois prochains, je pense.
Et je voulais te demander pour terminer cet entretien passionnant, est-ce que il y a un livre que tu voudrais que tu as lu et qui t'a marqué, ou un film. Comme tu m'as dit que tu venais de l'Andalousie, Elisa, j'ai tout de suite pensé au film espagnol. Et maintenant, je ne sais plus le titre. Tu sais, c'est le film avec un Basque qui rencontre. Ah oui! Les
Ocho apellidos vascos, c'est ça?
Ocho apellidos vascos.
Oui, c'est un film d'humour
oui.
où il y a les accents du nord et du sud de l'Espagne très bien représentés parce
Oui.
que nous, on parle d'une façon très, très différente aux personnes habitant dans le nord. Et c'est un film, c'est une parodie, je pense. Et ce film, il est génial si tu veux passer un bon moment et si tu veux, enfin, si tu es très doué en espagnol et que tu veux faire des progrès et acquérir aussi les accents du nord et du sud, je pense que ce film, il est très très bien parce que, à part le vocabulaire et la variété d'accents existants, c'est un film où tu vas rigoler et passer un très super bon moment, je pense.
Oui, j'ai beaucoup aimé ce film parce que aussi j'ai vécu en Espagne, donc je voyais tout de suite les différences. Mais j'en profite pour dire que dans ce film, donc on voit que les Espagnols, il y a une variété d'accents en Espagne, entre l'accent basque, toi qui as l'accent andalou, et j'en profite pour dire que l'accent n'est pas si important. Je connais beaucoup d'élèves de gens qui sont en train d'acquérir le français et qui veulent avoir un accent parfait en français, une prononciation parfaite. Mais quand on y pense, même en France, il y a différents accents en France et dans tous les pays francophones. Alors, quel accent est-ce que tu veux ou vous voulez acquérir, ou vous voulez, quel accent est-ce que vous voulez avoir quand vous parlez la langue française ou la langue espagnole, déjà, premièrement. Et je pense que le plus important, c'est de pouvoir communiquer. L'accent n'est pas si important, je pense.
L'accent, je pense que pour l'effacer, soit tu es un vrai bilingue, ce qui est déjà très difficile. Soit tu habites dans le pays où tu es tout le temps en train de communiquer dans la langue étrangère. Et pour moi, ce n'est pas très important parce que la perfection, le domaine, enfin, avoir un apprentissage parfait de la langue, même si c'est ta langue maternelle, ça ne va jamais arriver. Mmh. Et donc, il ne faut pas chercher la perfection, il faut chercher à bien comprendre et à bien se faire comprendre mmh. par les autres.
Exactement.
Donc, il ne faut pas chercher la perfection, déjà parce que ça n'existe pas. Et même si ça existait, on va toujours, si on ne se conforme pas, on va toujours vouloir aller au-delà. Et cela, je pense que ce n'est pas bon pour notre santé mentale.
Oui.
Donc, l'accent, c'est normal que l'accent de la langue maternelle soit derrière quand tu parles la langue étrangère. Mm. Et c'est normal. Et ce n'est pas pour ça que tu vas te faire comprendre pire.
Bien sûr. Bien sûr. Donc, Elisa, est-ce qu'il y a un livre ou quelque chose qui t'a marqué?
Moi, il y a un livre que j'ai lu cet été qui n'a rien à voir avec le français ni avec les langues. C'est un livre que j'ai lu en espagnol.
Ah.
Et il s'appelle El Silencio. C'est un livre qui a été écrit par Pablo Dors. Et il parle de la calme qu'une personne ressent quand elle est avec elle-même en silence et dans le monde de la méditation. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que je médite depuis un bon nombre de mois. Et ça m'a dit quelque chose. Ça m'a dit que ce n'est pas parce que tu es en silence que ça va être pire. Et donc, ces moments de silence, j'essaie de les avoir dans ma routine quotidienne. Et je suis accrochée à la méditation. Je ne peux plus arrêter de méditer. Et il est vrai que quand je suis dans ce silence, où il n'y a personne, où il n'y a rien, il n'y a que toi et ton corps, ça m'a donné une calme que je n'avais pas et que je n'ai pas eu jamais dans ma vie, même si tu me vois tranquille maintenant. Et c'est pour ça que c'est un livre qui m'a beaucoup aidé à pouvoir progresser et à être encore une fois une meilleure version de moi-même.
Mmh, très bien. Elisa, mettez dans les commentaires si vous aussi vous méditez, si vous avez besoin de calme et de silence, si le silence, le calme vous aide. Mmh. Maintenant, là, on est passé au développement personnel, hein, Elisa. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Pour cet entretien, merci. Est-ce que tu veux terminer avec comme on dit en français, un mot de la fin? Est-ce que tu veux
pour
dire
les apprenants?
Oui, par exemple.
Je pense que n'importe quel apprenant de n'importe quelle langue doit avoir la confiance au processus, faire confiance à son prof ou à sa prof, et le plus important, avoir la confiance en soi. C'est-à-dire que si tu veux apprendre une langue étrangère, tu vas le faire. Il faut que tu le visualises beaucoup de fois dans ta tête et ça va arriver. Donc, bref, aie confiance en toi. Je pense que ça, c'est la meilleure phrase pour fermer. Pour conclure.
Très bien, merci. C'est une très belle phrase de conclusion. Et confiant, ayez confiance en vous et confiance en toi. Merci beaucoup, Elisa. C'est la manière parfaite de terminer, de faire une pause dans cette série. Comme je l'ai dit, tu es la vidéo numéro 20, la 20e vidéo. Maintenant, je vais faire une pause. On se reverra en septembre. Mettez dans les commentaires si vous avez aimé cette série. Mettez dans les commentaires si ce qu'a dit Elisa a résonné pour en vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'expérience d'Elisa en tant que professeur, mais aussi en tant qu'être humain. Et voilà, merci beaucoup. Merci Elisa.
Merci à toi de m'avoir invitée. Ça a été un plaisir.
Merci. À bientôt.